Le cœur incertain, chapitre 4. Max Duplan, après sa promenade au bois en compagnie de Marguerite Verdier, était resté tout songeur. Il avait réfléchi profondément et cette opération l'avait troublé à un tel point qu'il n'avait pas pu dormir de la nuit. Jusqu'ici, l'heureux garçon avait joui de la vie sans arrière-pensée et rien n'était venu altérer la sérénité de son esprit ni la paix de son sommeil. Mais maintenant, tout était changé. Il fallait réfléchir et vouloir. Ce jour même, il devait revoir Marguerite. Quelle attitude prendrait-il à son égard? Oui ou non, voulait-il l'épouser? Il sentait bien que la chose dépendait uniquement de sa volonté à lui. Mais c'était justement cette résolution qui ne pouvait se résoudre. Car pour épouser l'héritière, il fallait renoncer à un autre rêve. Max, étalé sans force au fond d'un grand fauteuil devant sa fenêtre, fermait les yeux et son esprit évoquait une fine silhouette, un visage délicat, couronné d'une masse énorme de cheveux blonds qui semblait s'accaparer toute la force, toute la vie de ce corps si frêle. « Léa !» gémit le jeune homme. Il avait prononcé ce nom tout haut et brusquement, c'était comme éveillé de son rêve. « Allons, du courage, il le faut, » dit-il. Et sautant sur ses pieds, il prit son chapeau et sortit en ordonnant à son petit domestique de lui préparer son smoking pour le soir. Un quart d'heure plus tard, Max entrait dans une maison meublée de troisième ordre, située dans la partie de la rue des Acacias qui avoisine l'avenue de la Grande Armée. « Monsieur Perret est-il chez lui ?» demanda-t-il à la concierge gérante. Personne réfléchie, décorée du nom symbolique d'Euphrasie. Porte qui trônait dans un trou noir qu'elle appelait pompeusement son bureau. « Ben non, bien sûr qu'il n'est pas là, à 7 heures, répondit Madame Porte. « Mais sa fille n'est pas sortie, si vous voulez lui parler, vous n'avez qu'à monter à frapper. » Le jeune homme suivit ce judicieux conseil, mais quand il arriva sur le palier du second étage, son cœur battait si fort qu'il dut s'arrêter et faire un violent effort sur lui-même pour recouvrer un peu de calme. « Il le faut !» se répéta-t-il. « Il le faut !» Et il frappa. Immédiatement, la porte s'ouvrit et le fantôme de ses rêves, bien réel, bien vivant, apparut. À ses yeux, drapé dans un étrange péplum de soie jaune brodé de fleurs et d'oiseaux multicolores. « Ah, c'est vous, Max. Vous pouvez entrer, mon ami, » dit l'apparition d'une voix profonde au timbre grave, tout à fait inattendue chez cette minuscule personne. Ah, oh, toute petite, elle l'était vraiment, cette singulière fille dont les 20 ans gardaient une grâce enfantine. Ses mouvements étaient souples et légers comme ceux d'une chatte. Ses merveilleux cheveux pâlissaient un peu au voisinage de la soie éclatante dont elle était vêtue, tandis que ses yeux bleus fonçaient au contraire jusqu'au ton profond et glacé d'un beau saphir. Sa bouche, un peu grande, découvrait de petites dents blanches, pointues, régulières, des dents solides de jeune loup affamé. C'était en effet un bizarre petit animal que Mademoiselle Léda Perret. N'ayant reçu aucune éducation morale, aucun principe, elle suivait simplement ses instincts. Antoine Perret, son père veuf depuis de longues années, était un ancien administrateur colonial. Étant en résidence à Saïgon, il avait dû, à la suite de pénibles histoires de jeu, prendre sa retraite et interrompre sa carrière avant l'âge normal. Revenu en France depuis 2 ans, il traînait sa fille de garni en garni et de ville d'eau en ville d'eau, jouant et buvant une partie de sa modeste pension. Au fond, il comptait que la beauté de Léa lui ferait trouver un riche parti, ce qui les tirerait tous les deux de la misère. Mais la jeune fille se prêtait mal à ces combinaisons. Indifférente et inconsciemment fière, elle vivait volontiers retirée, lisant, rêvant, et se parant pour elle-même des belles étoffes tissées d'or et de soie qu'elle avait rapportées de Cochinchine. 18 mois plus tôt, au cours d'un séjour à Vichy, Max avait fait la connaissance de la fille et du père, qui soignaient aux eaux, disait-il, une maladie de foie contractée au service de la France. Le vieux bonhomme, bohème malin et peu scrupuleux, avait facilement accaparé le confiant jeune homme et en avait tiré tout ce qu'il avait pu, en attendant de lui faire épouser sa fille. Et Max s'était rapidement et sincèrement épris de Léa. Mais les ennuis matériels dans lesquels il se débattait depuis quelque temps l'avaient empêché de songer au mariage, tout au moins au mariage avec une fille sans ressources, comme lui. Il avait cependant continué à fréquenter chez les Perret et à les aider de ses derniers louis dans les moments trop difficiles. Cependant, jamais un mot d'amour n'avait été prononcé entre lui et la jeune fille. Il l'aimait, mais comme il ne pouvait pas l'épouser, il n'en parlait pas, voilà tout. Il ne se préoccupait même pas de savoir s'il était payé de retour. C'était seulement sous le coup des émotions de ces derniers jours que Max s'était mis à réfléchir à cette situation insolite et avait commencé à en comprendre la fausseté. Il s'apercevait de la profondeur de son amour juste au moment où il fallait y renoncer. Il se débattait douloureusement contre toutes ses pensées depuis la veille. Maintenant, elle l'assaillait, l'étouffait, le paralysait, au point de lui ôter toute idée, alors qu'assis en face de son ami, il la contemplait sans pouvoir prononcer une parole. Est-ce que vous êtes souffrant? Interrogea la jeune personne, étonnée de ce silence. Non, non, Léa, mais je suis bien malheureux. Alors donc, vous? Oui, moi, affreusement malheureux et doublement désespéré, puisque mon malheur va vous atteindre. Mais je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Moi, je peux dire que je suis malheureuse pour toutes sortes de raisons, hélas. Mais vous, je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Eh non, vous ne pouvez pas voir, savoir. Puisque je ne vous ai jamais dit que je vous aime de tout mon cœur. La jeune fille tressaillit. Un éclair traversa ses yeux magnifiques et glacés. Mais elle ne dit pas un mot, ne fit pas un geste. Et qu'il va falloir vous quitter pour toujours, acheva le pauvre amoureux en éclatant dans sanglots. Les yeux de Léa devinrent tout à fait noirs à cette étrange conclusion, et sa main se posa doucement sur la main du jeune homme. Elle attendait. Elle attendait, raidie, passive, l'arrêt de sa destinée. Max prit dans ses doigts la petite main toute froide et poursuivit péniblement. Léa, mon ami, il me semble que je ne vous ai jamais tant aimé. Et pourtant, c'est mon devoir de vous abandonner, moi qui voudrais pouvoir vous donner ma vie pour vous. J'ai été un fou, un misérable fou, mais j'en suis bien puni. J'aurais voulu vous épouser, vous faire la vie douce, facile, vous donner toutes les joies que vous méritez. Et il faut au contraire que je disparaisse de votre existence. Mais pourquoi? Interrogea la belle voix grave. Parce que je suis ruiné, mon ami, totalement ruiné. Et comme je ne sais aucun métier, que mon instruction est insuffisante pour me permettre de gagner ma vie, il ne reste pour sortir de cette situation aucun moyen, sauf un, me marier avec une femme riche. Comprenez-vous, être obligé de renoncer à vous, ne plus vous voir, ne plus vous voir jamais. Mais pourquoi? Interrogea la belle voix grave. Elle entendait, mais ne voulait pas comprendre ce que lui disait Max. Son calme extérieur et son visage impassible dissimulaient une véritable tempête intérieure. Aimait-elle réellement ce brave garçon qui étalait si naïvement sa douleur devant elle? Peut-être. Rose n'était pas sentimentale, ne s'était jamais posé cette question, mais elle comptait sûrement l'épouser. Elle en avait assez de la misère, de la bohème, de la vie de hasard et d'humiliation qu'elle menait. Elle avait soif de paix, de sécurité, de propreté morale et matérielle. Max représentait tout cela pour elle. Il était le salut, il l'aimait et il allait en épouser une autre. Voir ainsi s'envoler tous ses espoirs, se briser tous ses rêves au moment où elle les croyait si près de se réaliser, quel écroulement! Le choc fut si violent que la jeune fille sentit la vie l'abandonner. Mortellement pâle, elle laissa aller sa tête sur le dossier râpé de son fauteuil et ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle vit Max à genoux près d'elle qui couvrait ses mains de baisers et de larmes. « Mais vous êtes malade, je vous ai fait mal, » disait-il. « Mais il faut m'oublier, Léa, et être courageuse. Vous êtes si jeune, si belle, vous trouverez facilement un homme meilleur que moi, plus digne de vous, et qui vous rendra heureuse. Moi, si je me marie, je veux être loyale envers celle que j'épouserai. Elle est innocente et je ne dois pas lui faire expier mes folies. Voilà pourquoi je dois vous dire adieu aujourd'hui, ensevelir votre souvenir dans mon cœur et ne plus vous revoir. Votre vue m'ôterait tout courage. Alors je n'entendrai plus jamais parler de vous ? Si, si, dit vivement Max en se relevant. J'aurai de vos nouvelles, mon ami Rémi viendra en prendre. Il est si bon, si dévoué pour moi, ce brave garçon. Vous l'aimerez un peu, en souvenir de moi, dites Léa. Mademoiselle Perret eut un sourire ambigu en entendant le nom de Rémi Boisléger intervenir dans cette conversation. Elle le connaissait, oh, peut-être davantage que ne le soupçonnait Max, et évaluait le dévouement du personnage à sa juste valeur. « Mais enfin, continua-t-elle, répondant à ses propres pensées, quand vous serez marié, vous serez toujours mon ami. Vous pourrez venir me voir de temps en temps. »« Oh non, 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 non !» s'écria le jeune homme avec une sorte d'épouvante. « C'est impossible. Aidez-moi plutôt à avoir du courage en m'en donnant l'exemple. Et maintenant, disons-nous adieu. » Ils étaient debout l'un en face de l'autre. Léa avait senti que la résolution du jeune homme était irrévocable. Fataliste, elle se soumettait. Mais ses yeux avaient la couleur de la mer au soir d'orage, et ses joues étaient si pâles qu'aucune goutte de sang ne semblait plus circuler sous sa peau délicate. Toute droite, dans sa robe de rêve, couronnée de sa royale chevelure, les dents serrées, elle avait une expression si sauvage que Max fut épouvanté. Rapidement, il se pencha, mit un baiser sur les cheveux d'or et s'enfuit, sans ajouter un mot, emportant gravé dans son cœur l'image de cette petite divinité barbare au visage de furie. La belle villa de Magnolia, située dans le plus joli coin de ville d'Avray, et appartenant à M. Auguste Praly, était toute révolutionnée. On fêtait le soir les 18 ans de Mlle Clotilde Praly, fille unique de la maison. Mme Praly était encore à 40 ans une fort jolie femme. Très coquette, très élégante, elle menait une vie mondaine un peu frivole, tout en étant une épouse irréprochable et une tendre mère. Quand, un an plus tôt, elle avait dû reprendre définitivement sa fille qui venait de terminer ses études au couvent, elle s'était trouvée tout embarrassée d'avoir à conduire, à diriger cette jeune personne timide et silencieuse. Heureusement, sous des dehors frivoles, Madame Praly avait un cœur excellent et la douce Clotilde était si tendre, si gentille et si docile que les deux femmes s'étaient vite entendues. La maman, ayant simplement pris le parti de ne rien changer à sa vie habituelle, mais d'y associer sa fille, tout allait pour le mieux. Cette existence n'était peut-être pas tout à fait celle qui aurait convenu à la formation d'une petite âme fraîchement émoulée de son couvent, mais Clotilde avait 18 ans. Elle trouvait tout naturel d'être heureuse, fêtée, choyée. Les graves problèmes ne l'inquiétaient guère. La douleur ne l'avait pas encore effleurée. Ce jour-là, elle était donc toute joyeuse, très occupée à préparer ses atours pour le soir. Soudain, elle abandonna son occupation et courut à la chambre voisine. Elle s'écria en ouvrant la porte. « Dites-moi, maman, est-ce que M. Boisléger vient dîner ?»« Ah, mais non, Claude, j'ai reçu un petit mot de lui ce matin. Il viendra seulement à la soirée et il amènera son ami Max Duplan. » Non, je suis pas fâché, car nous manquons plutôt de cavaliers. C'est si compliqué de venir le soir dans la banlieue. Enfin, heureusement qu'il fait beau. Oh, oui, c'est une chance, mais quel malheur tout de même que M. Rémy n'ait pas pu s'arranger pour amener sa cousine, Marie-Rose. Elle aurait été si contente de venir. Vous savez, maman, elle est tout à fait gentille. Elle n'a pas une existence gaie avec sa vieille grand-mère, qui ne peut plus sortir du tout. Mais je sais, ma chérie, aussi j'avais songé à demander à Madame de Tréville de se charger de ton amie. Avec son auto, elle ne l'aurait pas beaucoup dérangé, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir, puisqu'elle ne veut pas laisser Lucien seul en ce moment. Ah oui, le pauvre petit Lucien. Bon, il a bien mauvaise mine, en effet. Nous irons le voir un de ces jours, si vous voulez, maman. Et en même temps, nous irons prendre Marie-Rose en auto. Cela la promènera. Si tu veux, mon petit. Mais maintenant, va voir si le jardinier a apporté les fleurs pour le salon. Tu viendras m'aider à les arranger. Les Prali avaient invité à leur soirée une 30aine de personnes. Mais au dîner qui devait le précéder, il n'y avait que quelques intimes. Mademoiselle Clotilde, héroïne de la fête, présidait la table en face de son père, rayonnante et parée d'un joli collier de perles qu'elle venait de trouver sous un coussin verriette. M. Pralieu était un homme de 50 ans, à l'air distingué. Excessivement occupé par les affaires de son administration et la gestion d'une assez grosse fortune personnelle, il laissait la vie entière et libre de la direction du ménage comme de l'incarnation de leur enfant. Il était cependant tout heureux de retrouver maintenant, chaque soir, le minois de sa fille et d'entendre son babil. Le dîner était fini. Vers 9 heures, les invités commencèrent à arriver. Quelques-uns, en voiture de Villers-d'Avray, étaient à pied. Il faisait si beau temps. D'autres avaient pris l'omnibus qui fait le service de la gare où étaient les automobiles. Parmi ceux-ci se trouvaient les Letuel que Marguerite Verdier accompagnait. La jeune fille, coquette pour la première fois de sa vie, n'avait pas voulu confier la fraîcheur de sa toilette au coussin douteux de l'Ouest État. Elle avait donc pris une auto qui devait les conduire et les ramener, ce qui permettrait également de rester aussi tard qu'on le désirait. « Oh, ma grande amie, que vous êtes belle !» s'écria Clotilde en voyant entrer Mademoiselle Verdier, pour qui elle éprouvait une admiration juvénile. « Mais c'est un désespéré d'avoir 18 ans. Vous éblouissez positivement. » « Voyez-vous la flatteuse ?» répondit Marguerite en riant, tout en parcourant des yeux le salon encore peu rempli. Ce qu'elle cherchait n'y était pas. « Vous regardez si votre cousin est arrivé, » dit innocemment Clotilde en la conduisant à un fauteuil placé sous la tente à l'abri d'un beau palmier. « Non, non, il n'est pas là, mais il ne va pas tarder, je pense. On va commencer à danser. » Il y a longtemps que je lui ai promis la première valse. J'aime beaucoup danser avec Monsieur Rémy. Il danse bien, il est si amusant. Oh, vous le voyez souvent, Clotilde? Mais oui, il vient jouer au tennis presque tous les dimanches. Oh, c'est un bon joueur et je suis devenue très forte. Oui, je sais que Rémy a toutes sortes de talents de société, dit Marguerite un peu froidement. En même temps, elle leva les yeux et rougit légèrement. Dans l'embrasure de la baie vitrée qui séparait le salon de la tente, venait d'apparaître celui dont il était question, accompagné de son ami Max Duplan. Ce dernier était fort pâle, mais ses yeux brillaient d'un éclat singulier, tandis que ses gestes paraissaient un peu fébriles. Bonjour, mademoiselle, s'écria gaiement Rémy Boisléger. Qu'est-ce que vous faites toutes deux dans ce petit coin? Oh, vous dites du mal de nous, hein? À moins que ce ne soit par coquetterie que vous vous êtes installées ainsi l'une à côté de l'autre. Oh, non, Rémy, ne commencez pas déjà vos folies, interrompit Marguerite. Il est trop tôt. Mes folies, parce que je suis guère. Oh, mon aimable cousine, que vous êtes sévère pour moi. Puisque c'est comme ça, je vais mademoiselle Clotilde et je vous laisse Max. C'est un garçon très sérieux. Vous pourrez parler d'économie politique avec lui. Il est très calé là-dedans. Clotilde s'était levée et partit en riant au bras de son joyeux cavalier, tandis que Max prenait sa place. Comment allez-vous aujourd'hui, mon cher ami? Demanda gentiment Marguerite. Très mal et très bien. Vraiment. Oui, j'ai été très mal hier et aujourd'hui parce que j'ai trop réfléchi. Cela me fatigue affreusement. Et je suis bien ce soir parce que je suis à côté de vous et que votre présence seule me rend heureux. Mais Max, en voilà un madrigal. On croirait d'entendre Rémy. Mais Rémy est un heureux mortel. Il est gai, élégant, sympathique. Regardez-le danser. On dirait un papillon. Oh, je voudrais être à sa place. C'est ça, comme vous êtes aimable, s'écria la jeune fille sans pouvoir s'empêcher de rire. Tant Max avait une singulière figure. Vous êtes bien assortis, les deux amis. Gens qui grognent et gens qui rient. Bon, vous voyez bien, vous vous moquez de moi. Mais pas du tout. Mais pourquoi êtes-vous si bizarre ce soir? Vous n'avez pas de soucis nouveaux. Oh non, merci, j'en ai assez d'anciens. Tiens, la jolie valse. Voulez-vous danser avec moi? Heureuse d'échapper à cette conversation pénible, Marguerite accepta. La valse terminée, Max reconduisit sa danseuse auprès de sa sœur, qui faisait tapisserie et ne paraissait pas trop satisfaite. Eh bien, tu valses à présent, s'écria Jeanne allègrement, toi qui ne devais pas danser, soi-disant. Oh, tu sais, souvent femme varie. Mais qu'as-tu fait de Félix? Oh, il est à une table de bridge, naturellement. Il va encore trouver le moyen de perdre, selon son habitude. Je connais rien d'aussi absurde que mon mari. Quand Madame Letuel commençait une litanie sur les méfaits de son époux, oh, ça pouvait durer longtemps. Mais elle fut interrompue brusquement par Rémy Boisléger qui s'exclamait: Comment, Marguerite, vous dansez ce soir, malgré tous vos serments? Allons! Alors, eh bien, accordez-moi cette valse, car je ne connais aucune danseuse qui vous soit comparable. Même pas Clotilde? Répondit malicieusement la jeune fille. Malheureusement, vous arrivez trop tard, mon cher, je suis fatiguée. Mais tenez, emmenez donc Jeanne, elle ne demandera pas mieux que d'avoir un cavalier aussi distingué que vous. Boisléger fit la grimace. Il trouvait sa cousine Jeanne assommante et se souciait peu de lui être agréable. Cependant, pris au piège, il s'exécuta, mais en s'en lançant un regard de rancune à Marguerite. Celle-ci, amusée, riait toute seule de son bon tour, quand Max, dressant devant elle, lui dit: Serait-il indiscret de vous demander les causes de votre gaieté? Oui, c'est très indiscret, mais je vais vous répondre tout de même, parce que c'est vous. Je ris de la tête de votre cher ami qui danse avec ma sœur, contraint et forcé, et qui n'a pas l'air content. Oh, vous n'êtes pas indulgente pour ce pauvre Rémi. Il me semble que vous ne l'aimez guère. Je ne sais pas pourquoi, car lui a pour vous la plus grande estime. Il me répète toujours que vous êtes une femme remarquable. Oh, vous savez, les compliments de mon cousin ne signifient rien. Il en fait à toutes les femmes. Tout en causant, les deux jeunes gens s'étaient levés puis dirigés vers le buffet. Marguerite se sentait très altérée. La chaleur de ce soir d'automne, la griserie du bal, une légère fièvre intérieure faite d'émotion et d'anxiété, la mettait un peu hors d'elle-même. Elle trouvait Max empressé, mais bizarre, nerveux, comme déséquilibré, et elle ne savait quelle attitude prendre à son égard. Ce dont elle ne se doutait pas, c'est que le jeune homme, qui avait passé son après-midi au cercle et dîné avec Bois Léger, avait un peu abusé des rafraîchissements et qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal. Mais c'était justement dans cette exaltation artificielle qu'il devait puiser le courage de brusquer un dénouement qui eût été difficile autrement. Pendant que Marguerite buvait, le bouquet de roses blanches attaché à son corsage tomba. Max le ramassa, mais ne le rendit pas. « Eh bien, un bon bouquet. »« Non, je ne veux pas vous le rendre. »« Ah, en voilà une prétention. »« Je veux que vous me le donniez. »« Mais qu'est-ce que c'est que cette lubie ? Voulez-vous me rendre mes roses tout de suite ? Max, c'est ridicule, je vais me fâcher. »« Non, 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 ne vous fâchez pas. » Mais venez avec moi dans le jardin, nous serons plus tranquilles pour causer. Je vais vous expliquer. Marguerite enroula son écharpe autour de son cou et suivit son compagnon sans rien dire. Quand ils furent dehors, dans les allées demi-obscures, malgré les lampes électriques, le jeune homme s'enhardit et murmura. Mademoiselle Marguerite, je ne veux pas vous rendre votre bouquet, je veux que vous me le donniez. Je veux qu'en même temps vous mettiez votre main dans la mienne, en me disant que vous me la donnez aussi, pour toujours. Et si vous ne voulez pas, bien je vais mieux mourir tout de suite. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup réfléchi depuis 2 jours. Voilà à quoi je pensais sans discontinuer. Je suis seul au monde, ruiné, une épave. Mais je suis jeune, pas méchant. Et vous l'avez dit vous-même, peut-être encore capable de faire quelque chose de bon. Pour cela, il faut que je sois aimé, conseillé, soutenu. Et vous, si bonne, si intelligente, si dévouée, voyez si vous avez le courage d'entreprendre ce sauvetage. Moi, je vous jure que je ferai tout ce que je pourrai pour vous rendre heureuse. La jeune fille était abasourdie. Elle resta une bonne minute sans voix. Oh, « Vous me repoussez, Marguerite, » dit tristement Max. « Vous me repoussez et me méprisez. »« Mais non, mon pauvre ami, mais vous ne pensez pas à ce que vous dites. C'est une idée que vous a traversé la cervelle, c'est pas sérieux. »« Vous vous trompez, c'est très sérieux. Je ne veux plus songer à vivre sans vous. » J'ai besoin de vous, de votre affection, comme de l'air que je respire. Mais vous ne savez donc pas mon âge? Mais je sais que vous êtes la plus belle et la meilleure des femmes. Je n'ai pas besoin de savoir autre chose. Marguerite fit quelques pas avec agitation. Son cœur battait, le sang lui bourdonnait aux oreilles. Enfin, elle parvint à se ressaisir et dit assez fermement. « Max, je ne dirai pas que j'ai une grande affection pour vous, ce serait indigne de moi. Mais le mariage est une chose grave, qui engage toute la vie. Je ne peux pas me lier par une promesse enlevée par surprise. Venez demain chez moi à 5 heures, nous pourrons envisager les choses avec plus de calme, après avoir réfléchi. » Maintenant, conduisez-moi auprès de ma sœur. Je crains qu'on n'ait que trop remarqué mon absence. Quand les jeunes gens entrèrent au salon, Marguerite fut brusquement accostée par Madame Letuel, qui l'entraîna dans un coin et commença sur un ton aigu une remontrance bien sentie. Tu n'as pas honte de te conduire comme ça, une fille de ton âge? Voilà 1 heure que tu as disparu avec ce Max Duplan, qui ne t'a pas quitté de la soirée. Oh, Félix en est outré! Ah, c'est Jeanne, pour l'amour de Dieu, tais-toi! Tu ne vas pas me faire une scène ici, n'est-ce pas? À mon âge, comme tu le dis, je sais ce que je fais. Quant à Félix, il peut garder son opinion pour lui, elle m'importe peu. Allez, on sert le souper. Viens, nous partirons aussitôt après. Dis à ton mari de faire prévenir notre chauffeur. 1 heure après, en effet, Marguerite montait en auto après avoir embrassé Clotilde et salué Madame Braly, mais sans avoir reparlé à Max. Félix Letuel, impressionné par l'attitude décidée et glaciale de sa belle-sœur, garda ses réflexions pour lui et n'ouvrit même pas la bouche jusqu'à l'arrivée. Marguerite Verdier, naturellement, ne ferma pas les yeux cette nuit-là. Les heures passèrent lentement pour elle, pendant que son esprit tournait et retournait des problèmes angoissants. J'aime Max, se disait-elle, mais est-il raisonnable de l'épouser? J'aime Max, mais lui, m'aime-t-il vraiment? J'ai 6 ans de plus que lui. Dans 10 ans, je serai une vieille femme, et lui sera encore un jeune homme. Jusqu'ici, il a été un garçon léger, frivole. Ne souffrirons-nous pas de divergences morales et intellectuelles, complètes, irrémédiables? Max est ruiné, il ne t'épousera que pour ton argent, disait la froide raison. Mais je l'aime, répondait le cœur palpitant, je l'aime. Et il est seul, malheureux, abandonné. Il a besoin de moi, il l'a dit. Oui, Max l'avait dit. Et il n'avait même pas dit que cela. Les mots de ferveur et d'amour qu'il avait prononcés le matin même, en arrosant de ses larmes les mains glacées de Léa Perret, il ne les avait pas répétés le soir à celle dont il désirait faire sa femme. Inconsciemment, la jeune fille subissait l'impression de cette restriction mentale, et le doute angoissant paralysait son élan. Mais elle était de cette race de femmes profondément aimantes, chez lesquelles rien ne peut plus détruire ni amoindrir l'affection du jour où elles se sont données. Généralement, un lendemain de bal est un jour maussade. On a peu dormi, on a mal à la tête et mal au cœur. On a eu des contrariétés, comme toutes les fois qu'on se mêle à ses semblables, et on a mal aux nerfs. La famille Letuel n'échappait pas à cette règle. Monsieur se montrait plus agressif que jamais, et madame était fort agacée. Toute la matinée, un vent de tempête avait soufflé dans l'appartement. Marguerite, réfugiée dans sa chambre, avait entendu successivement son beau-frère vociférer contre sa femme et sa sœur glapir contre ses domestiques et ses enfants. Le repas de midi, cependant, c'était passé en partie dans un calme relatif. On servait le café quand tout à coup Félix Letuel remarqua aigrement: Mon Dieu, Marguerite, vous n'êtes pas bavarde ce matin, et vous en avez une mine. C'est vrai, renchérit Jeanne, le bal ne te réussit pas, ma chère. Et puis tu es restée si longtemps dehors, tu as peut-être pris froid. Marguerite fronça les sourcils et répondit cependant avec calme: Mais non, Jeanne, rassure-toi, je n'ai pas pris froid. Seulement, je n'ai guère dormi, et tu sais, moi, quand je n'ai pas mon compte de sommeil, je suis perdu. Ah, tu vas encore faire un somme après déjeuner, je parie. Non, 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 j'attends la visite de Max Duplan. À propos, dis donc à Marie de ranger un peu le salon. La foudre tombant dans sa tasse à café n'aurait pas davantage suffoqué Félix Letuel. Max Duplan, articula-t-il. Et peut-on savoir ce que vous avez l'intention de faire de cet individu, Marguerite? Mais, Félix, je prétends d'abord faire ce que je veux, puis recevoir chez moi. Elle appuya sur ce mot, mes amis, quand cela me convient. Vos amis, depuis quand ce Godeluron est-il votre ami? Je serais curieux de vous l'entendre dire. Vous savez, Félix, que je n'admets pas que vous me parliez sur ce ton. La jeune fille n'avait pas l'intention de parler aussitôt à ses parents. Elle n'avait du reste pas encore absolument décidé ce qu'elle devait répondre à Max. Mais l'attitude de son beau-frère l'a mis hors d'elle-même. Et pour lui fermer la bouche, elle lança, sans réfléchir davantage. Max Duplan a demandé ma main hier, et ce soir il vient chercher ma réponse définitive. Demain il sera mon fiancé. C'est sérieux? Interrogea Félix assommé. Mais ma pauvre enfant, vous ne savez donc pas ce que c'est que ce garçon? Il a fait les 400 coups. C'est un joueur, un débauché, un écervelé. Et il a 10 ans de moins que vous. Oh, pour un mariage honorable, voilà un mariage honorable. Bien plus malin qu'il en a l'air, il a bien manœuvré. Mais il vous a donc fait perdre la tête pour que vous ne soyez pas capable de voir qu'il n'en veut qu'à votre argent. Allons bon, voilà ma femme qui pleure à présent. Oh, ça nous manquait. Tout le monde en veut à mon argent, Félix, dit tristement la jeune fille, qui avait écouté le cœur serré ce violent réquisitoire. Et vous le premier, ce n'est pas pour moi-même que vous tenez à me garder auprès de vous, car vous ne m'aimez pas, mais bien pour ma stupide fortune. Alors même si tout ce que vous me dites est vrai, qu'est-ce que je perdrai au change en épousant Max? Ce que vous perdrez, mais votre fortune elle-même, parbleu. Oh, il aura tout fait, le beau jeune homme. Il connaît la manière. Encore heureux s'il ne fait que cela. On m'a parlé d'une histoire de mine où il s'est fourré avec votre cousin Boisléger, et qui ne me paraît pas très limpide. Alors dites-moi tout de suite que Max est un voleur. Pas encore, tiens. Mais s'il a votre fortune en perspective, ça lui permettra d'attendre. Mais rien ne m'étonnera de ce garçon-là. Vous êtes réellement trop méchant, mon pauvre Félix. Votre colère vous aveugle et vous fait dépasser les mesures. Cette conversation a assez duré, je pense. Je verrai Max ce soir et ensuite je vous ferai part de ma résolution définitive. Quelle qu'elle soit, en tout cas, je vous engage à changer d'attitude si vous ne voulez pas que nous nous séparions. Allons, Jeanne, sèche tes pleurs. Je ne sais pas pourquoi tu te plonges dans un pareil désespoir. Tu n'avais pas l'intention de m'empêcher de me marier toute ma vie, n'est-ce pas? Marguerite savait par expérience combien les larmes de sa sœur étaient une manifestation anodine et éphémère. Elle l'embrassa cependant affectueusement, et laissant les deux époux en face l'un de l'autre, elle s'enfuit chez elle. Elle était violemment émue. Les paroles de son beau-frère bourdonnaient dans sa tête comme le font ces mouches odieuses et tenaces qui s'acharnent sur votre visage et dont on ne peut se débarrasser. Marguerite, qui sentait sa migraine grandir et l'énervement la gagner, se dit que si elle restait 1 heure de plus dans ce pénible tête-à-tête avec ses pensées, elle n'aurait plus aucune force et aucun sang-froid pour affronter son entretien avec Max. Ben allons, pensa-t-elle, une bonne promenade, une visite à Mademoiselle Varlet. Oh, j'irai beaucoup mieux ensuite. 25 minutes plus tard, elle frappait à la porte de son ancienne institutrice. Celle-ci l'embrassa avec effusion. Du premier coup d'œil, la vieille demoiselle avait vu que son enfant chéri était en proie à un trouble anormal. Cependant, elle fit mine de ne s'apercevoir de rien et parla de choses indifférentes, attendant que ses confidences vinssent d'elles-mêmes. Eh bien, my dear, dit-elle en s'asseyant sur une petite chaise à côté de sa visiteuse, Vous êtes-vous bien amusé hier soir? Il me semble que par ce beau temps, cette fête devait être fort jolie. Votre robe était-elle réussie? Étiez-vous belle? Allez, racontez-moi tout cela. Oh, chère demoiselle, c'était ravissant, s'écria Marguerite, évitant de répondre à la première question qui lui avait été posée. J'étais tellement belle que Clonie de Bralie m'a déclaré en desséché de jalousie. Elle, l'héroïne de la fête. Elle a une gentille petite nature, cette enfant. Elle s'amusait de tout son cœur. Oui, vous m'avez parlé quelquefois de cette jeune fille, Marguerite. Il me semble qu'elle est bien jeune pour mener impunément l'existence si mondaine de sa mère. Oh, pourvu qu'elle ne perde pas trop vite ses bonnes qualités. Mais puisqu'elle est votre amie, tâchez donc de lui faire un peu de bien. Vous devriez l'amener à notre pomponnière. Vous savez, j'ai toujours de l'ouvrage à donner. Oh, certes, j'en sais quelque chose. Je vous rapporte vos 24 chemises. Elles sont finies, mais elles m'ont bien ennuyé. Mais vous avez raison. Je parlerai de votre idée à Clotilde. Je suis sûr qu'elle acceptera avec plaisir. Allons, tant mieux. Une nouvelle ouvrière ne sera pas de trop, car j'en ai perdu deux bonnes cette année. Les demoiselles Merville, deux sœurs charmantes qui se sont mariées en même temps le mois dernier. Marguerite, à ces mots, poussa un soupir, baissa les yeux et rougit. Eh bien, mignonne, qu'est-ce que ça signifie, cet air mélancolique? Bonne amie, que diriez-vous si moi aussi je me mariais? Vous, oh, mais je serais bien contente, car j'avoue que la vie que vous menez n'est pas du tout celle que j'avais rêvée pour vous. Je prie le bon Dieu tous les jours pour qu'il vous envoie un bon mari, digne de vous, et une ribambelle de petits-enfants. Vous feriez une si charmante maman, ma chérie. Alors vraiment, il est question de quelque chose. Oh, la cachotière qui ne m'a rien dit. Mais je ne pouvais rien vous dire, je n'en savais rien moi-même. Allons donc, vous épousez quelqu'un que je connais, je pense. Oh oui, vous le connaissez depuis longtemps, mais surtout par ouï-dire, car vous avez davantage fréquenté sa famille que lui-même. Enfin, qui est-ce, Marguerite? Max Duplan. Max Duplan? Répéta la vieille demoiselle perplexe. Ah, j'y suis! Le fils de madame de Prévillac. Mais ma petite, il est tout jeune, il me semble. Marguerite éclata en sanglots. Oh mon Dieu, gémit la pauvre Amélie, varlette altérée. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pourtant rien dit qui puisse vous faire du chagrin. Oh non, c'est pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir, vous avez dit, vous aussi. Il est tout jeune, mais je le sais bien, hélas. Tout le monde me le répète, mais ça ne m'empêche pas de l'aimer. Vous l'aimez, mon enfant, alors, c'est sérieux. Mais comme je suis sûr que ma petite Marguerite n'a pas pu faire un choix indigne d'elle, pourquoi ces larmes? C'est nerveux, cela était plus fort que moi. Et tout d'un trait, elle dit les incidents des jours précédents, son affection pour Max, la demande formelle qu'il lui avait faite la veille, enfin ses hésitations en face de la décision qu'elle devait prendre le jour même. Après 2 heures de conversation, Marguerite quitta Mademoiselle Varlet, calmée et rassérénée. Elle était décidée à épouser Max, mais, selon le conseil prudent de sa vieille amie, elle comptait lui imposer des fiançailles un peu prolongées qui leur permettraient à l'un comme à l'autre de se mieux connaître avant de se lier pour la vie. Il était près de 5 heures quand Marguerite Verdière entra chez elle. Vite, elle remit de l'ordre dans sa toilette, puis longuement contempla toute sa personne dans le miroir. Est-ce que je parais avoir mon âge? Se demanda-t-elle avec angoisse. Envolée les hésitations, évanouie les raisonnements, elle n'était plus qu'une pauvre femme qui n'avait qu'une crainte, ne pas plaire assez à celui qu'elle aimait. Un bref coup de sonnette la fit tressaillir, et ce fut le cœur battant qu'elle pénétra une minute plus tard dans le salon où l'attendait Max, les bras chargés d'une énorme botte de roses blanches. « Voulez-vous me permettre, mademoiselle, dit-il, d'offrir ces fleurs à mon amie, puisqu'elle a eu la bonté de s'intéresser à mes malheurs. J'espère qu'elle voudra bien encore intercéder pour moi. » La jeune fille prit le bouquet en respirant le parfum et répondit « Je suis votre amie, Max, c'est vrai. Ce qui le prouve, c'est que je suis prête à faire tout au monde pour vous rendre heureux. Mais vous, vous, êtes-vous bien sûr de m'aimer? Vous savez, la bonne volonté d'un seul ne suffit pas à créer du bonheur. Mais je ferai tout ce que je pourrai pour vous rendre heureux, je le jure. Dites oui seulement. Pourquoi me faire languir ainsi? C'est de la cruauté. » « Non, Max, c'est de la prudence. J'hésite, je l'avoue. Tout cela est si soudain, et j'ai si peur que vous repensiez plus tard de m'avoir épousé. Alors, ce serait affreux. » Le jeune homme rougit. Il avait un peu honte de lui-même devant tant de simplicité et de modestie. C'était pour lui qu'elle craignait les regrets. Pour elle-même, rien ne l'effrayait, hormis la crainte de n'être plus aimée. Max, qui était loin d'être insensible, se sentit gagné par l'émotion de son interlocutrice. Et cette émotion était si réelle, si visible, qu'on pouvait en suivre tous les effets sur le beau visage bouleversé de la jeune fille. « Ma chère Marguerite, dit-il plus affectueusement qu'il ne l'avait encore fait, si la crainte que vous venez d'exprimer est la seule chose qui vous arrête, tout est pour le mieux. Vous pouvez m'accepter pour mari. Je jure bien que ce n'est pas moi qu'il regretterait. Vous êtes une femme exquise, délicieuse. Chaque fois que je vous revois, vous m'enchantez par quelque perfection nouvelle. Et c'est moi, au contraire, qui suis indigne d'un pareil trésor. Mais je ne suis pas un pauvre honteux. Si vous voulez me le donner, ce trésor, je l'accepterai, vous pouvez en être sûr. Eh bien, puisque c'est ainsi, je vous le donne. Voici ma main, prenez-la et gardez-la pour toujours. » Max resta une seconde étourdi. Il avait violemment désiré cette solution. Il s'était attaché à cette espérance comme à une planche de salut. Et maintenant qu'il touchait au but, il était stupéfait de la facilité avec laquelle il y était parvenu. Cependant, il se ressaisit vite et, baisant la jolie main fine qui lui était offerte, il s'écria « Dites-moi maintenant, ma belle fiancée, quand nous marierons-nous dans 15 jours ?»« Oh non, pas tout de suite. Il faut nous voir un peu, nous mieux connaître. » « Je pensais que nous attendrions le printemps. »« Oh, mais jamais de la vie, par exemple. »« Naturellement, vous qui êtes la perfection même, vous ne pouvez que gagner à être mieux connu. »« Mais moi, j'ai tout à y perdre. »« Il faut me prendre tout de suite, pendant que vous êtes encore aveuglé, sur mon compte. » Marguerite se mit à rire. « Mais quand nous serons mariés, dit-elle, « je verrai vos défauts, alors il ne sera plus temps. »« Alors vraiment, vous n'avez pas assez de 15 jours pour faire vos préparatifs. »« Eh bien, je vous donne 3 semaines, je suis gentil. »« Mais Max, c'est impossible. Il y aura tant de choses à faire, pensez donc. »« Mais je ne veux rien penser à rien ce soir. » Nous parlerons de ces détails un autre jour. Vous allez annoncer vos fiançailles à votre famille. Oh, la nouvelle ne surprendra personne. Moi, j'irai voir ma mère demain et je la prierai de venir elle-même vous demander d'être sa fille. Non, non, Max, je sais que Madame de Prévillac ne veut pas quitter son fils en ce moment. C'est à moi de me déranger. J'irai voir votre mère. Quand vous voudrez, mon ami. Lucien va mieux, cependant, mais je vous remercie de vouloir faire cette démarche. Je suis sûr que maman sera très touchée. À quelle heure voulez-vous que je vienne demain? Comme aujourd'hui, si cela vous convient. Oui, c'est parfait, car j'ai rendez-vous avec Boisléger après le déjeuner. Vous me permettez d'annoncer la nouvelle à mon ami? Oh, si vous voulez. Oh, j'espère aussi, Marguerite, que vous apprendrez à mieux connaître Rémi. C'est mon plus cher camarade, presque un frère. Ça me ferait beaucoup de chagrin de ne pas vous voir d'accord. Mais je ne déteste pas mon cousin, autant que vous vous plaisez à le croire, Max. Et pour vous plaire, je ferai tout ce que je pourrai pour être aimable avec lui. Les deux jeunes gens s'étaient levés. Marguerite reconduisit son fiancé jusqu'à la porte où celui-ci la quitta, après lui avoir tendrement baisé les mains. Monsieur et Madame Letuel étaient rentrés tous deux depuis un instant, mais ayant appris que Max Duplan était encore au salon, ils n'avaient pas jugé à propos de se montrer. Félix Letuel connaissait mieux que personne la volonté tenace et l'indépendance de caractère que dissimulaient le calme et l'aménité de sa belle-sœur. Il savait qu'aucune observation de sa part, aucun conseil ne serait écouté. Il était donc résigné à ronger son frein en silence. Il tenait à ne pas se brouiller avec la jeune fille, se doutant que lui et les siens auraient peut-être besoin un jour d'avoir recours à elle. Ce fut par conséquent d'assez bonne grâce qu'il aborda Marguerite, que sa femme avait déjà rejointe au salon. Tu sais, c'est décidé, lui cria Jeanne en le voyant entrer. C'est vrai? Oui, Félix, Max et moi, nous sommes fiancés. Nous nous marierons probablement le mois prochain. C'est bien, puisque votre décision est prise, j'ai plus rien à dire. Mais je tiens à vous répéter que l'observation que je me suis permis de faire ce matin était dictée par le désir de vous préserver d'un danger. D'après ce que je sais sur M. Max Duplan, il ne paraissait pas être un parti sûr pour vous. Voilà ce que j'ai voulu vous dire et c'était mon devoir de vous avertir. Si plus tard vous aviez à vous repentir de cette union, vous seriez en droit de me reprocher mon silence. Vous avez raison, Félix. J'ai été un peu vif ce matin. Mais que voulez-vous? J'aime Max de tout mon cœur. J'espère le rendre heureux et son bonheur fera le mien. Il n'a pas de fortune, mais je ne peux pas le regretter, car c'est une trop grande satisfaction pour moi de lui apporter, en même temps que ma tendresse, la tranquillité et le bien-être matériel. Le tuel fit un peu la grimace. La pilule était amère. Mais il ne laissa pas voir sa contrariété et répondit: Enfin, Marguerite, cela vous regarde. Vous êtes prévenue et majeure. Agissez à votre guise. Il me reste cependant un conseil à vous donner. Vous allez, je pense, vous faire faire un contrat dotal. Oh, comment cela? J'avoue que je n'ai pas encore pensé à ces choses-là. C'est possible, mais c'est mon rôle d'y penser pour vous. Oh, ceci, je suis tout à fait désintéressé. Je parle dans votre intérêt et surtout dans celui des enfants qui peuvent venir. Vous devez vous marier avec un contrat dotal qui mettra votre mari dans l'impossibilité de dilapider votre fortune. Mais ce serait une marque de défiance envers Max. Je ne veux pas lui faire cet affront. Alors, c'est de la simple folie, ma pauvre enfant. Oh, je ne veux pas dire du mal de votre fiancé, mais enfin, il a mangé sa propre fortune en si peu de temps qu'on peut être inquiet sur le sort de la vôtre. Marguerite était perplexe. Elle sentait que son beau-frère ne lui donnait en ce moment qu'un conseil sage et prudent. La raison lui ordonnait de l'écouter. Oui, mais si cela offensait Max? Cette crainte l'emporta immédiatement sur toute autre. Et la confiante fiancée déclara fermement: Non, décidément, Félix, je ne veux pas vous écouter. Vous avez raison, sûrement, Je vous remercie de vous intéresser si gentiment à mon sort. Mais voyez-vous, je mets l'affection de mon mari au-dessus de tout autre bien. Je veux avoir confiance en lui, comme j'exigerais qu'il ait confiance en moi. Je lui confie ma vie, mon bonheur, je peux bien lui confier mon argent. Et si je me trompe, s'il est indigne, eh bien, tant pis. Je serai tellement malheureuse que les pertes matérielles ne m'atteindront pas. Voulez-vous être assez bon, mon ami, pour me rendre un service en dépit de mon mauvais caractère? C'est de vous occuper d'avoir les papiers qui me sont nécessaires et de les remettre à mon notaire, M. Capron, pour qu'il me prépare un contrat comportant la communauté de biens sans aucune restriction.